Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Il
ne faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère, la deuxième de l'année, après cette formidable émission sur les livres d'été. Et nous allons rester dans des histoires légères, car nous vous proposons aujourd'hui notre émission annuelle consacrée à la bande dessinée. Des histoires douces où nous allons évoquer des cartels de drogue mexicains, des kidnappings par les Hells Angels, des kidnappings par des Indiens Comanches, des guerres, des lois raciales antisémites, des pirates tordus et teigneux, décès de mer, décès de compagne, décès de père, famille décimée, super-héros trans, dieux drogués et défoncés aux ténébreuses remplies de monstres inimaginables et de créatures infernales. Oui, chers petits enfants, cette émission n'est pas pour vous car il va s'agir de bande dessinée d'adultes, de bande dessinée suicide. Merci Marie pour ta sélection gaie et joviale qui va faire plaisir à nos auditeurs qui sont en train de préparer leur repas du soir dans la joie et la bonne humeur. Enfin, nous allons quand même parler d'oiseaux magiques qui fait la pluie et le beau temps, et des pensées de Rosa qui prennent la forme d'Aldo, son compagnon confortable, doux, assez large pour accueillir tout ce qui se passe par la tête d'une fillette comme elle, des rêves, des idées, des pensées et surtout des questions. Des rêves, des pensées, des questions, elle en a plein la tête. Pauline, bonjour.
Salut tout le monde.
Et Marlène, as-tu un double qui accueille tes interrogations ?
J'espère pas.
Oui. Valérie, as-tu déjà vu double ?
Des rumeurs prétendent que oui, mais je le nie. Et tu as oublié le viol dans ta liste des gaietés qu'on rencontre dans les livres ?
Ouais, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de tout ce que vous avez lu, de tout ce qu'on nous a proposé. Claire va arriver, elle est actuellement en train de rêver, hein, ça doit être ça, mais on va la retrouver dans pas longtemps. Allez, vu que je viens d'en parler, je vais enchaîner avec cette magnifique bande dessinée, magnifique vraiment. Aldo et Rosa, l'amitié donne des ailes de Susanna Maciangeli et Marciara Di Giorgio, édité chez Gallimard. Alors, comme je viens de vous la présenter en introduction, il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Rosa, qui entre en sixième et qui s'interroge. Question qu'elle fait partager à Aldo, son ami imaginaire, qui ressemble, alors il est un peu entre le bonhomme Michelin et un nuage. Aldo l'aide à trouver des réponses, mais aussi des nouvelles questions. Et il y en a quand on rentre en sixième. Alors Pauline, toi qui côtoies des sixièmes, les enfants de cet âge-là posent-ils plein de questions ?
Si peu.
Si peu.
Et pour... À longueur de journée, tout le temps. Ils ont des milliers de questions. Alors après, ils se les posent beaucoup entre eux, mais un peu à nous. Et il y en a des parfois drôles, des parfois étonnantes, des parfois peut-être même un peu tristes. Hein. Les filles en jupe, je vois.
Oui. Voilà. Rosa se questionne-t-elle sur son apparence, sur sa scolarité, sur le passage de l'adolescence, bien sûr, sur l'amitié, sur la différence, sur un contexte familial qui est tendu. Alors, avec ses cheveux courts et hirsutes, ses jeans et ses marinières, elle passe pour un garçon aux yeux de ceux qui ne la regardent pas et pour un garçon manqué aux yeux des obtus qui veulent la blesser. Et ça, ça la fait enrager, Rosa. On ne peut plus se coiffer ou s'habiller comme on veut quand on grandit. C'est une des questions qu'elle se pose. Alors elle en parle à son double imaginaire, mais parler toute seule, ça ne rend Rosa que plus bizarre pour les autres, jusqu'à ce qu'elle découvre enfin que presque tout le monde a un ami invisible. Il suffit juste de l'ouvrir, d'ouvrir les yeux et de l'accepter. D'où le sous-titre de l'album « Quand l'amitié donne des ailes ». Alors c'est un livre philosophique très doux dans son histoire et aussi dans ses illustrations qui sont faites à l'aquarelle, ses illustrations aquarellées. Alors là, au départ, la BD était publiée en épisode dans la revue International Kid, donc c'est en Italie, je sais pas, apparemment c'est assez connu, puis rassemblée finalement en un album parce que ça a plu aux lecteurs, un album qui touche autant les enfants de l'âge de Rosa que les parents qui ont des enfants ou qui vont en avoir. À ce moment-là d'émission, je regardais Claire, mais qui n'est pas là. Donc tant pis pour elle, peut-être qu'elle s'attendra dans sa voiture, on va lui demander. Comme ça, on verra si elle nous écoute. Au final, alors, c'est un peu plus quand même qu'une simple chronique de l'enfance qui s'envole. C'est vraiment une ode au pouvoir de l'imagination. et quand on s'y prend bien, qu'on la partage aussi, peut briser des murs, déployer des énergies. De fillette marginale, Rosa finalement devient une camarade lumineuse. Elle a des amis de chair qui deviennent aussi importants que son complice translucide. C'est vraiment, alors je le conseille, c'est d'une beauté, d'une poésie extraordinaire. C'est deux autrices italiennes qui ont collaboré sur ce projet, donc Susanna Matiangeli, qui est une autrice jeunesse qui a reçu le prestigieux prix Andersen pour ceux qui connaissent, qui réalise également des décors, des marionnettes pour le théâtre, et Marciara Di Giorgio, qui a travaillé en tant que storyboardeuse pour le cinéma avant de se lancer dans la littérature jeunesse. Donc voilà, je le conseille à tout le monde, y compris
pour les collégiens,
oui. Surtout pour les collégiens qui peuvent se retrouver en cette Rosa, et notamment sur les questions qu'on peut se poser à cet âge qui est, j'imagine, pas toujours facile, je m'en rappelle plus.
Si tu t'en rappelais, mon pauvre.
Mais ouais. J'aurais pas cet âge-là. Ouais. Voilà. Et donc, c'est aux éditions Gallimard. Voilà. Tant qu'à faire, c'est Gallimard qui le fait. Voilà, je rappelle Aldo.
C'est quoi ce nouveau slogan? Et Rosa.
Quel slogan? Parle en face du micro. Alors, ton micro parle là. Vas-y.
J'aimerais bien parler dans le micro à l'envers.
Oui, mais ça, on ne s'entend pas.
Mais non, je demandais quel était ce nouveau slogan. Tant qu'à faire, c'est Gallimard qui le fait.
Eh bien, écoute, je cherche peut-être des opportunités dans les maisons d'édition.
Dans la com. Hein,
chargé de com de Gallimard. Hein, okay. Pourquoi pas?
Non, pourquoi pas.
Si des libraires m'entendent aussi.
Qu'ils t'écoutent.
Qui m'écoute. Je peux en proposer. Voilà, on a fini les BD non suicides. Nous allons passer au BD peut-être suicide. Ah, j'avais prévu Claire parce que justement elle avait une BD très jolie. Alors hop, je vais changer et je vais passer à bon, allez, fini les belles histoires, ce qui n'était pas le cas normalement. Ouais. On va partir à la rencontre des cartels de drogue.
Ouais, ça va,
mexicain,
c'est sympa.
Avec le dessinateur Jeff, un polar dense et nerveux qui s'appelle le Mezcal Marlène. Voilà, Jeff, que l'on nomme également Jean-François Martinez de son vrai nom, qui est né en 1973. Et cette BD que tu vas nous présenter intervient après un diptyque réalisé avec son compère Mats, un spécialiste du contre-terrorisme, puis une trilogie au Lombard en collaboration avec Michel Onfray. Et Jeff revient enfin au polar dense et nerveux qu'il réalisait chez Rue de Sèvres, adapté des histoires du cinéaste Walter Hill, sauf qu'il change de co-scénariste et de maison d'édition en voiture. Attention, ça déménage.
Oui, ça déménage, à ne pas lire le jour où on n'a pas envie de déprimer après. Non, alors c'est un bon combo, cartel mexicain, tout y est. Les indiques, les conducteurs ou les mules, les règlements de compte entre bandes, donc les fusillades, grenades, couteaux, tranchements de gorge, acides... La totale. Mais on va jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Et avant de vous dire un peu comment se passe l'histoire, nous avons même deux molosses, ceux-là ils m'ont trop fait rire, drogués. Il y en a un qui est dessiné avec la clope au bec de longue. Et il s'appelle Zapata et Chavez. Bah oui,
normal.
Autant que faire se peut.
Évidemment.
Voilà. Donc voilà. <c'est... rire> On va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même dans les dessins.
Ah, c'est dégueu.
Voilà, les illustrations voilà, très, très explicites, les couleurs vives.
Oui, c'est presque vulgaire.
Ouais.
Oui. Je ne sais pas comment le dire trop, mais...
Voilà. On a même, bien entendu, la petite scène...
Coquine.
Ouais, vraiment, X+. Voilà. On a, bien entendu, les femmes, oh, j'adore, en tenue, tenue en laisse aussi, droguée, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. On est vraiment dans l'ambiance.
C'est
voilà, tout à fait.
C'est le cliché du Mexique.
Voilà. Après, on a quand même un petit bémol au milieu de tout ça. C'est un côté un petit peu chaman indien qui va en fait être le fil conducteur de cette BD de temps en temps pour ponctuer les scènes. Et en fait, on arrive à la fin du livre, on se dit ouais, en fait tout était calculé quoi. Vraiment ce côté chaman, je sais déjà tout, les rêves, les cauchemars, il y a une espèce de corbeau noir qui suit de temps en temps notre héros et tout. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, au début, en fait, on suit Vananka. Donc, déjà, il a un nom aussi très, qui fait très indien, quoi. Donc, Vananka, il vit à Chicago. Il a, je sais plus quel âge, il a une trentaine d'années. Il fait un job qu'il aime pas du tout. Sa mère, elle est toxico-alcoolique et elle décède au début de la BD. Son père, l'a abandonné quand il avait 7 ans, est parti pour le Mexique et lui envoie des cartes postales du Mexique chaque année pour son anniversaire. Bon. Va bien, de là on se dit, bah le pauvre lui déjà, il commence bien. Donc il perd tout, le job, sa mère, sa maison qui est saisie, parce que bien entendu les parents lui ont laissé une tonne de dettes. Et voilà, et là il se dit, ben je fais quoi? Bon ben je vais partir au Mexique. Et là alors déjà on rentre dans le cliché à partir de là, passage de la frontière mexicaine, vraiment tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut déjà connaître de ce qui se passe à la frontière mexicaine. Voilà, et dès le départ à son arrivée au Mexique, on se dit, purée, mais en fait, c'est écrit, il y a un truc, c'est pas possible, quoi. Il va rencontrer un petit enfant qui s'appelle Matteo, qui est aveugle et qui commence à avoir des pouvoirs chamaniques qui lui sont transmis par son grand-père. Et puis, dans cette famille, il y a aussi la fameuse Leila, qui est du coup un peu la chef de famille, une...
princesse.
Alors, une princesse, oui, alors mexicaine, une bombasse, voilà.
C'est on pas va Star dire, Wars, Valérie.
On va dire que tous les hommes bavent devant elle, mais c'est réellement ça à dessiner, hein, c'est vraiment, voilà. Qui refuse, du coup, de rentrer dans un des cartels, bien entendu, sinon on n'est pas dans l'histoire, et qui va bah, s'amouracher de notre Vananka, et Vananka va forcément s'amouracher d'elle aussi. Voilà, donc toute une série d'aventures, puisque elle, c'est son cousin Felipe qui veut les enrôler dans le cartel et qui est en fait le... Alors, je vais le faire à la mexicaine, le jefe de jefe, quoi. C'est vraiment le chef des chefs des cartels, quoi. C'est le big boss, quoi.
C'est le gouverneur.
C'est le gouverneur. Enfin, croit-on.
Croit-on.
Croit-on. Et donc ce Vananka va accepter de devenir, alors pas la mule, mais va accepter de devenir le chauffeur du cartel. Il va lui arriver tout un tas d'aventures, il va bien évidemment se faire arrêter, se faire démasquer parce que ça le fait pas, et devenir aussi indique, donc voilà, double jeu, tout ça. Les gangs entre eux qui, bien entendu, essayent de prendre la possession. Voilà. Donc, règlement de compte et règlement de compte. Et Vananka, au final, il est tué 3 fois. Et il ressuscite 3 fois.
C'est pas mal.
D'où le côté petit chamanique. C'est-à-dire qu'en fait...
Ça m'est déjà arrivé.
Voilà. On voit tout le temps ce corbeau. Et ce corbeau, en fait, il apparaît quand le grand-père chante des chants indiens. Et ce corbeau, il vole tout le temps. Près de... Donc, en fait, ça fait des pages de coupure qui sont quasiment vierges, où il y a uniquement les corbeaux en illustration, ce qui change totalement du reste. Et c'est au moment, en fait, où il va protéger Vananka. Et alors, soit il le déterre parce qu'il l'a enterré vivant, soit... bref, enfin, voilà, que des choses comme ça. Donc, on a ce côté chamanique. Et Vananka, en fait, il va être aidé jusqu'au bout, puisque l'objectif pour lui, c'est de retrouver son père. Et je ne vous dirai pas s'il le retrouve ou pas, et je ne vous dirai pas non plus quel est le lien avec le cartel, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc voilà, et son père, il est appelé au Mexique le fantôme, donc fantasma. C'est quelqu'un qui est quasiment impalpable, pardon, que personne n'arrive à voir, et qui n'est visible de temps en temps que dans un bar, le bar du titre de la BD, le mezcal, et c'est un très très bon joueur de musique. Et Vananka, à un moment donné, joue de la musique avec un personnage, il sait pas qui c'est, et voilà. Et je ne sais pas.
Et tu sais toujours pas.
Et je ne sais toujours pas. Enfin si, je sais, mais je vais pas vous le dire.
Ah oui, tu sais. J'ai peur, t'avais pas compris du coup.
Voilà. Donc après, c'est bourré de références aussi, historiques avec le nom des chiens, avec voilà, mais c'est vraiment voilà, drogue. Enfin, c'est cru, c'est trash, c'est bien fait. Voilà, vive le monde des cartels. Et en même temps, heureusement qu'il y avait ce petit côté chamanique sur l'histoire et qui nous amène au bout, voilà, et qui quand
c'est
même
un peu science-fiction du coup. Ou, on peut
non,
pas dire
non,
ça...
non, parce que
c'est ésotérique.
Plutôt. Ouais, c'est ça. Et puis, mais en même temps, c'est
j'ai eu 5 au bac.
Ça peut être réel.
Ésotérique, j'ai pas compris. Je me suis arrêté à Pythagore.
C'est une forme palmipède.
Ah, pardon. Ouais. Ça a l'air cliché un peu quand même sur ce que tu nous racontes.
Eh ben,
tu m'as l'air déçu.
Alors, non, c'est pas un domaine que j'apprécie forcément. Voilà, c'est pas forcément une bande dessinée que j'aurais prise de moi-même. Je l'ai lu sans souci. Maintenant, voilà, heureusement que j'étais pas dépressive ce soir-là, quoi. Voilà.
Par contre, les dessins ont l'air top.
Enfin, oh tiens, Claire, trash.
Tu apparais dans l'émission, mais c'est complètement chamanique, ça, avec une odeur en plus.
Est-ce que c'est parce que je suis en retard que j'ai droit à un vulgaire verre d'eau?
Non, c'est parce que tu es enceinte.
Et elle se plaint en
plus. Oui, c'est
elle
ça.
Elle arrive à 10 minutes à la bourre et elle est pas...
Voilà, et donc on a déjà parlé des santé. Images, Claire.
Ah, pardon. Bah oui, évidemment.
Évidemment. Mais les dedans. Voilà, et alors je vais juste vous dire... parce que forcément, pour donner un passage d'une BD, c'est un petit peu compliqué. Il y a juste une page que j'aime beaucoup, qui est très poétique. Donc, c'est une double page où il y a juste un fond de couleur et en ombré, Van Anka avec sa guitare au milieu du désert, en fait. Et alors, j'adore, tu verras les clichés comme ça. J'adore la petite bulle qu'il y a. Qu'il y a-t-il de mieux dans la vie? Un pétard bien tassé, une guitare, un paysage grandiose et la perspective d'une séance de baise. Voilà, sur ce...
Je l'imaginais beaucoup plus poétique.
Je ne m'attendais pas à ça non plus avec le paysage.
Ouais.
Et je sais, c'est pour ça que je l'ai fait celui-là.
Et même comment tu nous l'as présenté, tu vois, on le voyait un peu au-dessus de,
non. Oui, de tout ça. Ouais. Ouais.
Et non. Non, 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 non.
Voilà. Il a pété un boulard. C'est chez quelle maison d'édition?
Du coup, là, on est chez Soleil.
Soleil. Bon, ben merci. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Bon, on a zappé l'histoire de Claire. Du coup, elle est punie. Mais ça sera pas elle maintenant. C'est belle histoire qui parle d'oiseaux de pluie. Mais tu auras le droit de parler, mais pas tout de suite, parce que là.
Sinon, ça lui met le bordel dans tous ses enchaînements.
En plus, j'arrive avec
c'est
ça. Hydro qui pue là.
Ouais, c'est clair. Mais quelle odeur
alors que vous êtes à l'apéro.
On va rester dans le kidnapping pour enfin répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que les kidnappings de Comanche sont plus violents que ceux des Hells Angels? Pauline, tu vas nous présenter Nadua de Séverine Vidal et Vincent Sorel.
Oui, alors une histoire, Nadua, une histoire bouleversante. Voilà, on est dans le thème, hein, c'est bien, parce que le thème aurait pu être histoire bouleversante, histoire qui secoue. Et pour moi, histoire vraie. C'est-à-dire que mon livre, c'est Nadua, et c'est l'histoire de
Nadua.
Voilà.
Oh, Nadua, ensuite, là, née... Claire, là, on suit, s'il te plaît.
Alors, elle n'est pas née, Nadua. Elle est née, alors, là où la BD débute, on est en 1836, elle doit avoir 13-14 ans, je suppose. Et elle s'appelle alors Cynthia Anne. Elle vit au Texas avec sa famille. Et un jour, des Comanches débarquent dans la ferme de sa famille, massacrent une partie de sa famille et décident de la kidnapper, elle. C'est pas l'histoire du kidnapping qu'on va nous raconter, c'est l'histoire de qu'est-ce qui se passe quand on se fait kidnapper par un peuple qui décide qu'il veut qu'on vive avec lui. C'est-à-dire que quand elle va arriver chez les Comanches, Cynthia Anne, ils vont lui donner un nouveau nom. Ils vont lui apprendre leur culture. Et elle va vivre avec eux, elle va vivre en Comanche, même si elle est blanche, même si elle a les yeux clairs. Elle va même épouser le futur chef de sa tribu. Elle va faire des enfants. Bref, elle va vivre, elle va s'adapter à la vie à laquelle... dans laquelle on l'a ancrée.
Est-ce qu'elle est heureuse?
C'est toute la question, c'est d'ailleurs tout le thème du livre, en fait. Donc, ce à quoi on assiste au début, c'est ce kidnapping. C'est une toute petite, voilà, c'est deux pages de la BD. Et là, on arrive dans les années, on est 25 ans plus tard, donc 1860 à peu près. Et Cynthia Anne vient de revenir à Fort...
À l'amour?
Non, et non. Bref, là,
c'est
la seule
que je connais.
Fort quelque chose, l'Adouer vient, elle a été ramenée, enlevée de nouveau à la tribu dans laquelle elle est depuis 25 ans, et ramenée dans sa ville d'origine, comme tu reviens chez toi, sauf qu'elle ne revient pas chez elle. Pas du tout. À aucun moment, elle ne revient chez elle. Et elle rencontre, donc tout le monde autour est joyeux de voir cette femme revenir, d'autres ont peur parce qu'elle a vécu quand même 25 ans avec, je mets des guillemets, des sauvages. Bref, le sentiment de la population est partagé, mais il y a cette petite fille qui essaye de, voilà, d'en parler avec elle, de voir ce qui lui manque, ce qui la rendait heureuse, etc. Et donc elle revient un peu sur ce qu'elle a vécu, et le fait que quand elle est arrivée chez les Comanches, elle était Cynthia Anne et elle a appris à devenir Nadua, et elle est devenue Nadua, et elle était heureuse, elle a fait des enfants, elle a rencontré son mari, elle est tombée amoureuse, et 25 ans après, elle a dû être arrachée de nouveau à tout ça. Et elle doit réapprendre à être Cynthia Anne, elle doit réapprendre à parler la langue qu'elle avait presque oubliée, elle doit réapprendre à se comporter comme ce à quoi on s'attend. Bref, c'est un déchirement, et en fait, c'est en préparant la chronique que j'ai vu le sous-titre que je n'avais pas vu avant de préparer ma chronique, et qui est donc Cynthia Anne Parker, cœur enterré de foi. Voilà. Et c'est vraiment. Ce qu'on ressent, c'est qu'elle a dû se faire disparaître, cette femme, parce qu'elle a vraiment existé. Hein. Elle a même été la mère du dernier chef Comanche. Et en fait, voilà, elle a dû oublier qui elle était deux fois. Et les deux fois, bon, alors la première fois, on sent la souffrance, mais finalement, ça va assez vite. Alors après, c'est peut-être un parti pris des auteurs.
Puis l'âge, peut-être aussi.
L'âge, oui, voilà, elle est jeune quand elle est enlevée par les Comanches, donc l'adaptation est peut-être entre guillemets plus facile. Mais voilà, elle va vivre, elle va grandir avec eux, et de nouveau, on l'arrache. Et puis ce sentiment difficile de se dire, tout le monde a l'air content que je sois revenue, tout le monde a l'air de se dire c'est une réussite, son frère est là, elle est accueillie par sa sœur, donc voilà, certains de ses frères et sœurs sont encore vivants et sont ravis de la retrouver, et elle pas du tout, parce qu'elle a perdu ses deux fils, alors elle est revenue avec sa fille. On est bouleversé parce qu'on se dit... ce qu'on croit ressentir pour les autres, parce que tous ces gens qui sont heureux de la retrouver, on comprend leurs sentiments, ils ont retrouvé leur sœur, ils sont pas du tout malveillants, ils croient l'avoir sauvée des sauvages, mais elle est dans une souffrance terrible, et c'est très dur parce que personne finalement n'arrive à l'écouter, chacun s'écoute et écoute ses propres sentiments, et voilà, et elle a le cœur enterré, arraché, déchiré deux fois dans sa vie, avec un destin funeste. Ça l'aura fait souffrir. Je vous spoil le truc. Je spoil parce que ça l'aura fait mourir quand même. Ça a été trop dur dans sa vie. Donc c'est une BD à lire sur le dessin. C'est assez classique. C'est de l'aquarelle, je suppose.
Oui, c'est assez enfantin comme
dessin. C'est clair. C'est sympa parce qu'il y a une interview du scénariste et de la scénariste, je crois. Séverine Vidal et du dessinateur, de l'illustrateur Vincent Sorel, qui disait qu'il voulait pas, il a hésité même à faire une BD en noir et blanc pour pas que l'image prenne trop le pas sur l'histoire, parce que l'histoire se suffisait à elle-même finalement. C'est assez intéressant de lire comment ils ont construit cette histoire, comment ils ont fait les dessins, parce qu'il existe deux images de Nadua, deux photographies. Deux différentes.
De Nadua ou de Cynthia Anne?
De Cynthia Anne. De Cynthia Anne après avoir vécu en tant que Nadua.
D'accord.
Voilà. Il y en a de son fils, il y en a beaucoup de son fils. Kwana, qui est devenu, donc qui a été le dernier chef Comanche. Donc vous pouvez aller voir, c'est touchant. Il y en a de lui devant sa tombe, qui est marqué Cynthia Anne Nadua Parker. Voilà. Même sur sa tombe, ils. Pense qu'ils n'ont pas réussi à trouver qui elle était, même sur sa sépulture. Donc c'est assez bouleversant parce qu'on sent de la souffrance. Et donc ils ont rajouté le personnage de cette petite fille pour être un peu le lien avec nous de Nadua. Bref, c'est une histoire touchante à lire, à découvrir, parce que c'est sur le déchirement, sur tout un tas de sujets qui nous touchent beaucoup en plus, je pense, aujourd'hui.
J'avais acheté un doc l'an passé à la MDL sur des femmes blanches qui avaient été échangées contre des prisonnières chez les Indiens. Et donc, elles avaient vécu aussi.
On en avait parlé lors de la dernière mission.
Oui, mais elle avait, avec Doc, on avait présenté un bouquin.
Un roman,
c'est pas
un roman.
La dernière émission.
Non, c'est pas la dernière. C'était il y a un an.
C'était pas un Doc. Hein, enfin,
non, ou c'était la dernière de l'année dernière.
Enfin, en tout cas, avoir vécu cet aller-retour là comme ça, ça doit être assez rare.
Mais oui, entre cultures, en plus deux cultures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et de t'être adapté, de t'être intégré, d'avoir été revécu, etc., dans tout ça, et d'y être arraché de nouveau. Ouais. Enfin, on imagine le déchirement.
Je vais te dire, est-ce que ça pose pas la question un peu de l'adoption de ces personnes qui sont arrachées de leur culture, qui essayent d'y revenir et qui s'y retrouvent pas par rapport à la première. Mais là, c'est même pire. On se fait arracher deux fois sa culture.
Ouais.
Tu allais faire des recherches, du coup, en te disant...
Un tout petit peu, juste par manque de temps. Il existe quelques petites choses sur elle. Il y a une grosse partie romancée, hein. On imagine de beaucoup. Il y a beaucoup de choses sur son fils, Kwana. Mais sur elle, il y a quelques biographes qui ont travaillé. Il y a quelques archives, quelques...
Il n'y a pas de film ?
Alors, si,
parce qu'étrangement, ça me rappelle...
Si, il y a un film qui semble être tiré de sa vie, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Un film célèbre. La prisonnière du désert. Voilà, ils en parlent, qui est inspiré de sa vie. Alors, les auteurs appellent ça un slow western. Voilà, c'est le western sans le côté les hommes qui se tirent dessus, etc. L'univers du western sans le côté je me flingue de tous les côtés. Voilà, et j'aime bien le terme slow western parce qu'on le ressent, le ressent vachement. C'est bien trouvé.
Ok.
Donc à lire.
Ouais. Allez, super à lire. Pour clôturer, Séverine Vide, elle a eu de nombreux prix sur ses romans, chez Serbacane, chez Robert Laffont, chez Nathan, ses albums chez Gallimard, Milan Mango, des BD chez Delcourt Grand Angle. Elle anime des ateliers d'écriture. Ses livres sont traduits également à l'étranger. Vincent Sorel, lui, est né en 85 à Caen, dans le Calvados, auteur de bande dessinée, illustrateur français. Il vit et travaille à Nantes. Et également, il a gagné plusieurs prix de BD, notamment à Lausanne, sur de nombreux ouvrages. Et en 2020, a paru le premier tome, pour ceux qui connaissent, des aventures du roi singe. Voilà, qui est connu également. Merci Pauline, la maison d'édition, c'est...
Glénat.
Voilà.
Allez, un jingle avec Glénat.
Non, je n'en ai pas. Vais-je faire parler Claire ? Non. Cette émission est trop soft. Valérie, n'aurais-tu pas une histoire de massacre d'une famille entière ?
J'en ai deux.
Alors, nous allons parler du patient de Timothée le Boucher.
Mais avec plaisir. C'est le meilleur massacre des deux, quand même.
C'est pour ça que je te
très bon choix. En plus, ça fait un lien avec le livre de Marlène. C'est génial.
Eh ben, c'est
moi aussi, j'ai un corbeau noir qui est surgi.
Et pour l'instant, ça suit. Il y en a les Indiens aussi, avec le côté chaman.
Il y a de l'idée. Alors, ce livre, pour l'anecdote, hier soir, je ne savais toujours pas ce que j'allais vous présenter comme BD. Et c'est mon chéri qui me dit « Tiens, mais là, j'en ai acheté quelques-uns. Il y en a un, là. Bon, c'est un peu psychologique. » Et je m'attendais à du psychologique, mais quelque chose qui me ferait réfléchir, qui me ferait songer sur, je ne sais pas, sur la vie, sur quel sens donner aux choses.
Tu es en train de nous dire que tu choisis tes livres. Tu prends des livres de chez toi.
Ah, j'avoue. Le premier, je l'ai choisi chez moi. Le deuxième, c'est un ami qui me l'a conseillé.
Voilà. Super.
Ben, je vous en parle.
Alors, on va tous faire ça.
Oui, soyons fous.
Allez.
Oui, parce que c'est toi qui as choisi mes livres, Ludovic. J'ai trouvé ton choix spécial.
Ouais. Voilà. Je n'étais pas en forme ce jour-là.
Je l'ai senti. Et donc, je me suis dit,
t'excuse
tiens,
alors.
Je vais lire donc ce livre psychologique, mais sans savoir. Et là, je me mets tranquillement dans le lit. J'allume la petite lumière dans cette grande chambre sombre. Et j'ai eu la trouille de ma vie.
C'est vrai, la couverture est rose, ils se font un câlin.
Mais oui, ils se font un câlin. Mais en fait, c'est une histoire horrible, en fait. En fait, c'est l'histoire d'une famille, une famille nombreuse, un peu, j'allais dire, en difficulté sociale. Et qui, dans cette famille où il y a six enfants, un neveu et les parents, Il y a une des filles qui a un problème psychologique, qui est un peu, j'allais dire un peu attardée, qui, que dans les enfants de la ville se moquent beaucoup. Et un jour, on voit la police en train d'arrêter donc cette jeune fille qui est en chemise de nuit avec un couteau et elle est revêtue de sang. Bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger. Et donc la police l'interpelle, la ramène chez elle, la connaissant, on est dans une petite ville, et se doutant qu'il y avait eu un problème, il rentre à la maison et là, massacre. Toute la famille, donc la grand-mère, les parents, les quatre frères et sœurs et le cousin. Et en fait, quand il trouve à un moment donné un des frères, il se rend compte qu'il a encore des signes vitaux. Donc il est amené à l'hôpital et là, la BD passe à 5 ans plus tard. Donc le jeune homme qui était dans le coma commence à ouvrir un œil, puis deux. Et arrive donc une psychiatre qui fait 2 heures de route pour venir voir ce jeune qui est en train de sortir de son coma. Et qui commence à raconter qu'en fait, il a des visions horribles. Et c'est l'atmosphère de cet hôpital Triglock, où on sent vraiment cette grande pièce dans laquelle il est, avec les éclairages, une télé qui grésille, et cette silhouette, donc ce corbeau, des fois, qui rentre en plus dans la chambre, qui vient se poser au bord du lit. On se dit, il va y avoir quelque chose de surréaliste, cette silhouette de cet homme en noir avec des griffes ou dont on voit que les yeux blancs qui vient commander cet enfant, on se dit qu'il lui veut du mal aussi, enfin, c'est effrayant, et ce psychiatre qui fait tout pour le sortir de cette torpeur, pour le guérir. Et en fait, on croit qu'elle le veut juste le soigner, mais en fait, elle veut en savoir plus.
Oui, parce elle veut le faire parler.
Voilà. Oui. Parce que lui, il a vu tout ce qui s'est passé. Ouais. Et sa sœur, qui était présumée du coup coupable, parce que réputée un peu folle, réputée et tout ça, avant de se défenestrer dans son hôpital psychiatrique... Oui. A dit
petite cerise sur le gâteau.
Voilà. Ah non, mais j'ai annoncé que c'était pas funchy quand même. Hein. Juste avant de se défenestrer, a dit à la psychiatre, c'est pas moi.
Celle qui est accusée dès le départ, la pauvre fille.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Mais c'était sûr que c'était pas elle.
Mais t'es pas sûr. Jamais le bon coup.
Trop simple.
Oui, mais peut-être des fois c'est trop simple et on ne sait pas. Qui c'est alors?
Tu sais pas à la fin?
La psychiatre.
C'est Émile, le tueur. Non. C'est en fait, ben justement, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, plus on avance dans le livre,
moins on sait.
Et moins on sait. Et en fait, et la dernière page, on doute de tout.
Est-ce que tu sais à la fin ou pas?
Je viens de répéter, je re-répète ma dernière phrase, avec la même intonation. Et à la dernière page, on doute de tout.
Oui, mais tu peux douter de tout jusqu'à la dernière image.
Et à la dernière page, on doute de tout. Non, mais même...
Bref, on ne sait pas, quoi.
On sait
même
pas.
Sur la quatrième de couverture, quand tu as fermé ton livre, tu doutes.
Non, mais je ne suis pas d'accord, moi.
Pardon. Mais peut-être toi, quand tu vas le lire, parce que tu as envie quand même de le lire.
Ben là, j'ai envie de le lire.
Ça éveille la curiosité, quand même.
Non, mais c'est...
Pourtant, tu peins un tableau très noir, mais...
C'est noir, mais c'est...
C'est fou, on est attiré par le...
Je le trouve très fourbe, ce livre, parce qu'il est quand même rose avec un câlin en page de
couverture. Oui, et il est hyper fourbe, parce qu'il donne vraiment envie. Alors effectivement, c'était psychologiquement très fort.
Dérangeant.
Mais c'est en plus c'est une BD qui est longue, qui est
oui, c'est dense, un gros pavé.
Qui est dense et qui donne envie vraiment d'aller au bout, parce que c'est vraiment comme les séries je sais pas d'enquête criminelle en fait, qui ressortent des cartons là avec la poussière dessus, et on a envie de savoir. Puis il y a tout un tas de personnages qui arrivent derrière, il y a des histoires parallèles en fait d'une médecin qui ressemble énormément à Nadia, c'est-à-dire qui tire la gueule, et c'est son état naturel. Enfin,
ouais, parce que Nadia, elle a de quoi tirer la gueule, quand même. Hein. Excuse-moi, mais... Ouais.
Mais là, c'est... Waouh. Et finalement, ceux qui ont l'air d'être les méchants sont finalement peut-être pas si méchants. Ceux qui ont l'air d'être les gentils sont finalement peut-être pas les si gentils. Et c'est extrêmement perturbant. Par moments, en fait, plus on avance dans l'histoire, plus on peut comprendre pourquoi il y a eu ce massacre de perpétrés. C'est pas excusable, mais c'est compréhensible si on est sur une des théories, pas sur une autre. Enfin, c'est
C'est mais on n'en peut plus, on a trop envie de dire.
Mais tiens, je te le prête.
Alors, psycho, c'est vraiment
pour,
ça, quoi.
Pour info,
ce n'est pas une histoire vraie.
Timothée Le Boucher, attention à son CV. Gros CV de cet auteur qui, donc, qui, lui, il écrit.
Oui,
il,
déjà, oui,
il fait les illustrations, il fait tout. Alors, attention, il est né en 88. Comme moi. Alors, oh, ne riez pas, pardon, s'il vous plaît. Alors, qu'il est étudiant à l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême. Il sort okay. diplômé d'un master bande dessinée, normal. Alors, il présente des planches sur le site de Manolo Sanctis. Et cette maison d'édition, qui est par ailleurs une maison d'édition, lui propose de faire un album de bande dessinée. Il écrit trois scénarios différents, dont celui de Skins Party, qui séduit les éditeurs. Direct, bim, sélection officielle au Festival d'Angoulême l'année suivante.
Ça tombe bien, il avait un appart déjà.
Voilà. Et là, mise en liquidation de la maison d'édition qui annule sa venue au festival. Oh. Dommage. Il écrit un deuxième livre. Troisième livre de bande dessinée, Ces jours qui disparaissent, qui sort en septembre 2017 aux éditions Glénat. Un récit qui relève du fantastique, qui met en scène un personnage acrobate qui connaît des troubles de la personnalité. Alors l'idée du récit...
Ah, mais qui a très très bien marché.
Voilà. Oui, ça, alors l'idée du récit est venue à l'auteur, alors qu'il sortait des Beaux-Arts d'Angoulême, une période où il se remettait en question l'idée de continuer la bande dessinée. Il cherchait un métier plus rémunérateur pour gagner sa vie. Alors il nous dit « J'y pensais énormément, j'étais comme une personne qui ne vivait son présent qu'un jour sur deux. Et de là, quelques jours, toute l'histoire s'imposait à moi. Le livre s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires, remporte le prix littéraire des lycéens, et apprenti de la Provençale Côte d'Azur. En janvier 2018, Festival d'Angoulême, il reçoit le prix des libraires de bande dessinée, qui, d'après le Figaro, doit être adapté au cinéma par Jonathan Barré avec Arena Films, et dont la sortie était initialement prévue au printemps 2019, qu'on attend toujours. Pourquoi, je ne sais pas. Et ensuite, il obtient en avril 2019, avec Le Patient, le prix... il est dans les six finalistes du prix de la BD FNAC. Et le journaliste Gilles Ratier décrit le récit comme un thriller psychologique hitchcockien.
Oui, complètement.
Voilà. Et lui dit s'en inspirer des codes du manga sur l'élaboration graphique oui. de ses personnages oui. afin de les rendre plus facilement identifiables. Voilà. C'est un...
Et c'est fou parce que dans cette BD, il y a un peu tout. On va retrouver un peu tous les clichés qui peuvent exister, mais ça, par rapport aux histoires parallèles. Mais c'est très court, c'est-à-dire que ça, c'est pas mis là juste pour meubler, parce que l'histoire elle suffit elle-même, mais ça apporte une espèce de suspense en fait sur le, et c'est vraiment c'était une claque, waouh.
Bravo, Le Patient, n'hésitez pas à le lire si vous aimez.
Mais pas trop tard le soir quand vous l'attaquez.
Hitchcockien.
Et pas s'il a fait trop noir.
Allez, on poursuit dans la féerie. Ah ben tiens, c'était, j'annonçais ça après avoir présenté Aldo et Rosa en deuxième chronique de cette émission. On poursuit dans la féerie avec le tome 2 de Traquenard et Faribol de Malfra qui vont chercher Stratus, l'oiseau magique. Une BD de Benoît de Pelouclair.
Oui, une BD jeunesse, je vais y arriver. D'ailleurs, je ne sais pas ce que fait cette BD dans toute cette sélection moribonde et affreuse, parce que là, franchement, on est sur un univers très mignon, très proche du conte. Donc, Traquenard, c'est un chien. Il dit que son ancêtre, c'était Isengrin. Voilà, donc il y a des références. Et puis, Faribol, c'est le renard. Et pourquoi j'ai eu envie de lire cette BD, c'est surtout, en feuilletant, je trouve que les illustrations avaient l'air de nous faire baigner dans un univers... un peu médiéval, plus ou moins fantastique, plus ou moins fantasmé. Et c'est complètement le cas. Donc on est dans un royaume où la météo se détraque. Nous ne sommes pas dans un état de sécheresse 2022, mais bien plutôt l'inverse, où la pluie ne cesse de tomber. Donc au début, les paysans sont contents, ça démarre avec ça, et puis finalement, assez rapidement, on se rend compte que ça ne va pas. Et les gens veulent se plaindre auprès du roi, qui dans les contes sont responsables de tout.
Bah, évidemment, oui.
Voilà. Et je me dis, bon, oui, tiens. Mais finalement, pas tant. Enfin, oui, c'est pas si faux, parce qu'il a un oiseau magique, qui s'appelle, tu l'as dit, j'ai déjà oublié moi le nom, Stratus. C'est le titre de l'album.
Je suis un peu fatiguée. voilà, Stratus, il est bleu, il est magique, il vient d'un pays, un pays lointain où jamais personne n'est allé. Enfin bon, voilà, il y a tout un monde derrière cet oiseau qui a la capacité de chanter pour faire la pluie et le beau temps. Ah. Et un jour, Stratus se dérègle, il est cassé, il veut plus, ça marche pas. Et donc, on reste sur, sur le déluge, quoi. Et là, toute une aventure s'organise. Le roi va dépêcher des émissaires, des scientifiques, voilà, pour essayer de régler le problème. Et puis finalement, ben, qu'est-ce qui le règle ? Ben, c'est nos deux bras cassés, Faribault et Traquenard, qui partent dans une aventure. Voilà. Donc c'est franchement, c'est très très, enfin c'est super chouette, je pense, pour des enfants, quoi, de primaire. Hein, peut-être à partir de 8 ans, je pense que ça se lit très bien. C'est une BD qui fait 50 pages, hein, donc on est. Enfin, en tant qu'adulte, ça se lit en une heure. Voilà, c'est coloré, c'est vivant, c'est un bon moment. Voilà.
C'est un troisième tome, il me semble. Hein.
Oui, peut-être, je n'ai pas lu.
Mais tu peux le lire, donc tu peux le lire sans avoir lu l'autre.
Oui, c'est de leurs aventures.
Ouais, on comprend un peu qu'il y a eu. Enfin, qu'ils ont un passé, ces personnages, mais c'est pas dérangeant.
Ok.
Voilà.
Ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien.
La petite Stratus, pause.
Merci.
Allez, mais on va enchaîner avec une pause musicale, comme ça. Une pause musicale de Claire Rosenkranz, qui va nous chanter Frankenstein, et vous saurez pourquoi juste après.
Hey, can we get some cowbell?
Allez, on est de retour dans cette émission pour parler de Frankenstein. Hop, je reprends mes feuilles. Et bien,
c'était
pourquoi...
ça le lien avec la chanson.
Et exactement, mais on va pas parler de Frankenstein. Je vais vous faire passer ce livre. C'est un livre qui s'appelle Doc Frankenstein. Et ouais, c'est une bande dessinée complètement dingo. Alors vous avez cru tout entendre dans cette émission. Mais attention, attachez vos ceintures. C'est un comic book des sœurs Wachowski qui sont les réalisatrices et scénaristes de la saga Matrix. Avec des illustrations fantastiques, des planches splendides de Steve Skross, qui a été ce storyboarder pour de nombreux films, dont V comme Vendetta, pour donner un peu l'idée. La mise en couleur, c'est énorme. Ouais. Quatre coloristes pour mettre en couleur. D'ailleurs, on s'arrête en fait souvent de lire pour regarder les illustrations, on se rend compte chaque planche, mais c'est vraiment, c'est magnifique.
Oui, c'est un boulot de malade. Ouais.
C'est un boulot de fou. Alors, l'histoire, elle est complètement barrée. Dans un monde aux allures futuristes, Frankenstein est traqué par une église chrétienne intolérante et son cortège d'abominations. Alors, exemple, on va juste parler de la première page. Le monstre de Frankenstein vient d'abattre un béhémos gigantesque, créature biblique, qui est plus mort que le disco, d'après Frankenstein. Washington.
C'est dégueulasse.
Ouais. Washington. Washington et le président Bush sont sauvés. Celui qui affirme se nommer Doc Frankenstein, en référence à son créateur, défend les États-Unis du mal qui peut l'atteindre. Alors, le fil rouge du livre étant le havre de paix que Frankenstein essaye de construire pour les personnes qui apparaissent comme lui, comme des monstres, et la traque de l'église qui va détruire toutes ces arches de Noé que le Doc construit au fur et à mesure. Donc, ça part du Far West jusqu'à on arrive à Bush, on revient, enfin, c'est très très long. Autre fil rouge, l'histoire de Frankenstein, de Doc Frankenstein même, qui nous est dévoilée petit à petit par flashback. Alors, fondamentalement, il est enclin à faire le bien, comme pensé par Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein, ne sais plus à quelle époque, mais il y a très longtemps, 19e siècle. Il se met au service de la justice en pourchassant les méchants, car les hommes ne sont pas tous méchants et il peut les aider. Alors, c'est provoquant, c'est violent, c'est parfois choquant, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et je ne vous parle pas de l'histoire de Jésus et de Dieu revisité. Je vais m'arrêter là, car ça arrive à un moment donné. Ouais, t'as vu les détails ? Il y a des détails dans chaque page, c'est hallucinant.
Il y a des références. Quoi.
C'est ça. Alors, ce livre a bien entendu un lien avec ses autrices. En ouverture, Lana Wachowski, qui signe une longue préface dans laquelle elle revient sur le processus de création de ce livre, ainsi que sur le refus des intolérances qui minent notre monde. Alors, il faut savoir qu'elle est devenue femme transgenre, comme son frère, qui est devenu sa sœur. Donc, finalement, on se rend compte qu'elle invoque le monstre comme un double littéraire, frappé par l'intolérance et la marginalité au prétexte de sa différence. Voilà, on se rend compte de ça. Une fois, moi, maintenant, je fais comme Poppy. Voilà, il faut savoir Popo qui est devenu Poppy. Mais je ne lis pas les préfaces. J'attends de lire d'abord l'histoire pour revenir dessus. Et ouais, on apprend de tout le monde. Hein, surtout de Poppy, il faut le savoir. Donc voilà, une fois que j'ai lu le livre, je me suis dit, allez, quand même, parce que bon, c'est marqué sur la préface, les scénaristes de Matrix.
Non, mais tu l'as lu ou tu l'as pas lu ? Faudrait.
Si, je l'ai lu après. Non, sur la première de couverture, il y a un gros truc, le mythe de Prométhée par les sœurs,
revisité par les Wachowski.
Voilà, les Wachowski, scénaristes de Matrix. Alors, je me suis dit Prométhée. Ouais. J'ai pas trouvé trop, à part que bon, il aide les humains. Mm-hmm. Voilà.
Bah oui.
Mais bon, c'est pas que ça promettait, c'est pour ça. En fait, au début, il décide de mourir en se disant « Mais voilà, je suis un monstre, je sers à rien. » Là, il sauve une humaine et tout le monde le remercie. Il dit « Ah, mais il y a des gens bien parmi les humains, donc ça va être ma quête. Et on va aider Washington, on va aider le président Bush, on aide tout le monde. » Et là, il y a toujours secte catholique, parce que c'est quelqu'un qui l'avait blessé, qui l'a rendu infirme, qui veut en fait s'occuper de se venger, quoi. C'est pas vraiment.
C'est pas bourré de plein de clichés, de plein de choses. J'ai l'impression qu'il y a.
C'est humoristique, hein, c'est un comic book.
Ouais, c'est comic book.
Donc c'est pas
beaucoup de références, mais.
C'est ça. C'est ça.
Et en fait. C'est vraiment caricaturé. Ouais.
Voilà, et apparemment, elles en ont écrit plusieurs des comic books, personne ne le sait. Ses sœurs, mais.
Ses sœurs, frères.
Ils ont mis 150 ans à faire un travail pareil. Enfin, on sait combien de temps ils ont mis ça. Ils ont
dessiné
un petit dodo.
Ouais, il y a un dodo. Oui, mais c'est à lire.
C'est un gros travail artistique, en fait.
Ah ouais, c'est énorme. C'est
quand on passe les pages, on passe d'un univers futuriste à une église catho, à un désert avec un dodo mécanique. Enfin, c'est...
Une planche scato aussi. Ouais. Il y a vraiment de tout.
Ouais, il y a un peu d'érotisme.
Et chaque page, oui, c'est ça. C'est... Chaque page, il y a tellement de détails qu'on lit, on s'arrête pour regarder. Ouais. Et, en fait,
et chaque page a presque son thème de couleur. Là, quand on voit défiler de loin, il y a, on dirait un univers de couleurs par page presque.
Oui, c'est ça.
Il y a des affiches par chapitre, comme si c'était des affiches de films.
Ouais. Oui.
En fait, il n'y a pas tant de texte que ça quand on regarde chaque.
Oh, c'est que c'est écrit petit.
Non, Ludo, arrête, on te connaît à force.
Non, mais vous me donnez toujours les livres où il y a le plus de...
C'est toi qui as choisi, on t'a laissé choisir un premier.
C'est vrai.
Non, en fait, moi, je l'ai laissé pour... je l'ai vue, celle-là, et je savais pour qui elle était.
C'est vrai.
Non, mais c'est à lire. Pour moi, c'est un peu un ovni, parce que des comics, j'en ai vu, mais là, c'est autre chose encore.
Ouais.
C'est décalé, on parle de l'histoire contemporaine, avec des personnages contemporains. Qu'on remet au goût du jour, voilà, là t'as Dieu en haut à droite. Tu vois,
et ça se voit.
Oui. Ça se voit.
Dis donc, ouais.
Ça regarde.
Il est bodybuildé.
Il prend de la cocaïne des fois, voilà, c'est complètement, complètement déjanté.
Il est nu dans une peau de bête.
Alors qui dit mieux?
Mais j'espère que c'est moi après parce que ça irait très bien.
Pourquoi ne pas parler d'une sorte d'Alice au pays des pirates?
Ouais.
Ah, t'as vu, je travaille bien les émissions.
Ah oui, parce que là, pour le coup, le lien est tout à fait parce qu'on a parlé de l'univers graphique de... Et le mien a un univers incroyable, un univers graphique incroyable, mais pour des raisons totalement différentes. Alors, je vais vous ouvrir une de mes BD.
Avec la couverture de toute façon.
Moi, je n'ai pas de coloriste, j'ai un scénariste illustrateur.
Alors, pendant que tu l'ouvres, je vais annoncer, c'est Jérémy Bastiam, la fille maudite du capitaine pirate.
Voilà, ouais, la fille maudite du capitaine pirate. Alice chez les pirates, c'est très bien, ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Là, on est dans un univers graphique hallucinant. C'est-à-dire que tu te posais la question combien de temps ils ont mis à écrire Doc Frankenstein.
Elle avait parlé de 1000 ans, mais je pense qu'elle est un peu exagérée.
On est à 3000 pour...
Bon, qui dit voilà, pour le prochain.
Et alors, c'est marrant, t'as dit OVNI. Et quand j'ai écrit OVNI sur ma chronique, je me suis dit, ah non, ça va pas, parce que c'est OVNI, ça s'applique plus à Doc Frankenstein. Là, on est dans un univers...
Une pépite.
Ouais, quelque chose de très particulier, ben, comme Alice. Pour ceux qui ont lu Alice au Pays des Merveilles, tu sais pas vraiment ce que tu lis, tu sais pas vraiment à qui il s'adressait, tu sais pas à qui il pensait. Il a fait son truc, le gars, et je suis sûre que je me mouille pas trop en me disant qu'il est fan d'Alice, hein, celui qui a écrit ça, parce que donc l'histoire de la fille maudite du capitaine pirate, c'est l'histoire d'une petite fille qui, tout le long du livre, s'appelle la fille maudite du capitaine pirate. On ne l'appellera pas autrement. Elle est orpheline, elle vit sur une plage dans un petit cabanon. On ne sait pas trop pourquoi elle vit là, comment elle est arrivée là. Et du jour au lendemain, elle va trouver une entrée secrète vers un monde incroyable, les mers d'Omerta, qui va lui permettre de partir à la recherche de son père, qui était donc un grand capitaine pirate. Elle a des talents d'escrimeuse, c'est une fine lame, une grande batailleuse. Par hasard, elle va même se faire crever un œil au début de sa... de son aventure, ce qui lui permettra de mettre un vrai bandeau de pirate, bref, une vraie pirate jusqu'au fond des tripes. Et donc, elle va partir dans cette aventure, dans ces mers d'Omerta, qui sont un univers complètement délirant. Mais vraiment délirant, délirant de personnages, de monstres qui n'en sont pas, d'hommes squelettes, d'hommes de fer, d'hommes de... C'est incroyable.
Des personnages chimériques aussi.
Voilà, des créatures un peu fantastiques, presque mythologiques. Bref, elle va faire des milliers et des milliers de rencontres. Et tout ça avec des milliers et des milliers de détails, à la fois dans le dessin et dans le texte. J'ai malheureusement lu les 3 tomes que j'avais de cette BD en une soirée. Je pense que j'aurais dû les lire en... 3 semaines, 4 semaines pour avoir le temps de tout voir, tout assimiler, parce que alors l'histoire, le texte est d'une richesse incroyable, le dessin est d'une richesse incroyable, et il y a même des petits à côté. Des fois, tu vas avoir un petit personnage qui se déplace le long de la page et qui va raconter petites blagues, ou qui va aller essayer de soulever la page suivante pour voir ce qui s'y passe et essayer de te raconter, de spoiler un peu la page suivante. Il y a en chaque fin de chapitre, il y a une espèce de publicité. c'est du délire, cette bande dessinée. C'est incroyable, la quantité d'informations. Certains diraient que c'est peut-être un peu trop. Moi, la seule difficulté que ça m'a posée, c'est le lettrage. Ça m'a posé problème. J'ai eu du mal parfois à le déchiffrer, surtout au bout du troisième tome.
Tu pleurais
à 1h du matin. Voilà, j'avoue que.
Les pixels.
Les majuscules sont enchaînés
parce que c'était génial et que tu ne pouvais pas t'arrêter.
Parce que oui, j'avais du mal à m'arrêter. Ouais. Et en fait, je pensais que ça se finirait au tome 3. Ce n'est pas le cas. Donc j'ai tout donné pour finir l'histoire avant l'émission. Et non, je me suis fait avoir. Bref, c'est une BD extrêmement étonnante, comme Alice au Pays des Merveilles peut être étonnant, d'incroyable, d'émerveillement, de surprise. On peut ne pas comprendre, on peut détester, on peut adorer, on peut... Enfin bref, c'est incroyable, incroyablement surprenant. Voilà. Je ne dirais pas bien, extrêmement surprenant, vraiment.
Elle a inventé un monde qui fait un peu penser aussi au Tolkien, avec tous les détails et tout. Il y a les cartes, ça fait très...
Magicien d'Oz, il y a la mythologie. Ouais. Et puis, il y a une patte extrêmement personnelle. Quand on voit des personnages, on ne sait jamais s'ils vont être méchants ou gentils. Le fait qu'ils aient un look de méchant,
Ça ne les condamne pas pour autant.
Non, voilà, elle est là à chevaucher, donc elle se déplace dans ce monde sur le dos d'un poisson qui peut gober un perroquet pour le protéger de ce qui se passe autour de lui. Enfin bref, c'est incroyable. C'est incroyable cet univers que donc Jérémy Bastian je pense, parce que c'est traduit, semble.
Jérémy et Bastian.
C'est du délire. Incroyable.
Eh bien, écoute, ça donne envie.
Ah ouais,
je pense qu'on peut adorer ou détester, mais ceci dit, c'est à découvrir pour
ça
l'originalité.
Alors, pour info, cet auteur, Jérémy Bastian, c'est un auteur de bande dessinée américain qui est né en 1978 dans le Michigan.
On se rapproche de la vérité.
Mais alors, tu parles du Michigan, c'est ça. Voilà.
Par rapport au dessin, il imite le grain de gravure à l'aide de pinceaux ultra fins. Parce que quand on regarde comme ça, on ne sait pas, on se dit ça, c'est l'encre de Chine, qu'est-ce que c'est ? Non, il imite la gravure et ce qui est fou,
c'est qu'il a tout tracé.
Voilà, il a tout tracé. Et ces deux influences, alors tenez-vous bien, c'est Gustave Doré qui est né en 1832 à Strasbourg, un illustrateur, caricaturiste, peintre et lithographe et sculpteur français. Et c'est Albert Dürer qui est né en 1471 à Nuremberg, qui était un graveur et peintre allemand de la Renaissance.
Mais c'est pas étonnant du coup.
Et du coup, c'est pas étonnant, Et c'est un auteur, je sais pas ce qu'il a sorti d'autre par contre.
Vu le temps qu'il a dû mettre à faire ça, je suis pas sûre qu'il ait sorti beaucoup de choses.
C'est vrai que l'écriture, tu vois, ça fait calligraphie jusqu'au bout avec
Le lettrage est fait par quelqu'un d'autre, visiblement.
Parce que il y a même les lettrines, donc en fait.
Oui,
jusqu'au bout, quoi.
C'est incroyable, incroyable.
Puis les proportions chaque fois qui sont différentes.
Certains personnages ont une tête gigantesque. Ils m'ont fait penser à encore une fois, la référence Alice, clairement c'est celle d'Alice. Je ne sais pas si elle est voulue ou non, ou si c'est juste.
Oui, il y avait les têtes qui sont grandes.
Voilà, ces énormes têtes.
Certainement.
Les animaux qui parlent, qui ont l'air d'avoir.
Oui, ces personnages un peu idiots qui croient n'importe quoi. Enfin, c'est dingue. C'est très étonnant.
Et ses bouclettes, là, qui fait vraiment
la petite
Alice.
Apollonia, finalement, jusque-là, assez secondaire, servait juste à lancer l'histoire. D'accord. J'aurais bien aimé la connaître un peu plus, cette petite
Apollonia. Mais peut-être
Apollonia.
Dans le tome 4, 5 ou 6.
Oui, j'imagine qu'elle va avoir son importance. Il ne peut pas l'oublier comme ça.
C'est
pas
possible. C'est quand même le titre.
On ne sait pas combien de tomes...
Je pensais 3, mais visiblement, c'est au moins 4.
Il est jeune, il a 100.
Il dit que l'aventure commence... se relance dans le tome 3. Vraiment.
Merci Pauline, ce livre qui est alors La cerise sur le gâteau.
Ouais, les éditions La cerise sur le gâteau,
Merci Marlène, Sarah Del Giudice, derrière le tableau. Qu'est-il caché derrière le tableau ?
Derrière le rideau.
Derrière le rideau, pardon.
Derrière le rideau.
Oui.
Toute sa vie se joue derrière un rideau.
Et oui.
Oui, alors, autre ambiance. Hein, ouais. Voilà, voilà. Retour historique. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. La Shoah et la rafle des Juifs. Et là, c'est la rafle des enfants. Voilà.
Ah. Oh, ben, on a déjà raflé donc, tout à l'heure.
Oui, ah, on a raflé.
Oui, mais elle, on sait qu'elle ne revient pas. Alors,
ah.
Bah, c'est. Voilà. Voilà. Donc, derrière le rideau.
Elle avait qu'à mieux se cacher.
Alors.
On sait toujours que c'est derrière le rideau, sous le lit.
C'est ça.
Donc là, l'autrice, ben, c'est pareil. Donc, elle nous prévient, mais à la fin. Que du coup, c'est tiré de sa propre histoire, mais elle y a. Enfin, de sa propre histoire. De l'histoire de sa famille, hein, parce que voilà. Et, mais elle y a mis quand même un petit peu de faits imaginaires, quand même.
Oui, il faut
commencer quand même. Voilà, un tout petit chouïa. Donc, ça commence en 1937. C'est la petite Yaël qui a 8 ans et qui raconte son histoire. Donc, elle vit avec sa petite sœur, Émilie. Alors, Émilie, on ne sait pas quel âge elle a, mais je lui donne peut-être 2 ans de moins qu'elle. Donc, 6, ouais, ou peut-être, enfin, voilà, par là, à peu près 6 ans. Elle vit avec son papa et sa maman. Et elle va, du haut de ses 8 ans, découvrir, en écoutant les conversations des grands, même si elle n'a pas le droit de le faire, et ben, découvrir tout doucement les faits historiques. Donc, elle va apprendre... elle va apprendre des termes qu'elle jusque-là elle ne connaissait pas, mais qu'est-ce que ça veut dire goy? Pourquoi on me traite de goy? Pourquoi mes grands-parents paternels, je ne les ai jamais vus? Pourquoi papa est fâché avec eux? Et pourquoi par contre avec maman, là on les voit, j'ai appris à faire, à suivre la tradition juive, donc à 8 ans je sais faire... tout ça, et donc cette petite fille elle commence à piger des choses, puis bien entendu malheureusement pour elle
c'est compliqué, on dirait,
ouais. Sa maman décède d'une maladie en 38, mm-hmm. au tout début de l'histoire, mm-hmm. Et du coup elle va s'interroger sur des préoccupations que peuvent peut-être avoir les enfants de son âge. Et quand on meurt, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je peux me réincarner? Si je me réincarne, c'est en quoi? Et elle s'interroge comme ça. Et puis il y a des petites, comme ça, scénettes où du coup, c'est vraiment des interrogations d'enfants. Il y a un petit vase où on met les mauvaises pensées, tous quand on est en colère, tout ça. Et puis il y a un petit passage marrant où elle rend visite à leur cousin, enfin leur tante, leur oncle avec leur cousin. Et cousin Julien, il est marrant parce que cousin Julien, en fait, il passe sa vie à aller gratter son nez, à trouver ses crottes de nez, puis c'est drôle, quoi. Et puis la fois d'après où on le rencontre, cousin Julien, il s'occupe plus de ses crottes de nez, mais il s'occupe des caca. Oh, ça c'est un caca de chien. Oh, ça c'est un caca de renard. C'est, voilà. Bon, voilà. Donc, c'est il y a des petites histoires d'enfants. Et puis là, commence à être intégré tout doucement les faits historiques, donc zone libre, déclaration de la guerre, zone occupée, alarme anti-aérienne, on va se cacher, papa est mobilisé, que devient papa? Papa nous écrit, mais en fait, on reçoit les nouvelles 3 mois après, en fait, donc voilà, papa revient, il est blessé, il se met à boiter, enfin voilà, tout ça est bon. Et donc, la fin est sur 1942, instauration de la loi qui décrète que les enfants qui sont nés de parents de deux religions différentes, si ils ont 3 grands-parents qui sont de race juive, sont considérés comme juifs. Et puis ça se durcit. Si il n'y a que 2 grands-parents, ils sont considérés comme juifs. Et donc voilà le papa qui, lui, est un chrétien, qui se voit obligé de déclarer l'existence de ses 2 petites filles. Et
Maman était morte, en plus.
Oui, la maman était morte. La maman juive était morte. Oui. Il s'est remarié avec une chrétienne, en plus. Donc, en fait, il pensait que ses filles seraient protégées. Et arrive le jour de la rafle où papa est parti, pour je ne sais plus quelle raison. Belle-maman est partie voir sa mère malade. Elles ont leur gouvernante qui est là, tout le monde crie planquez-vous, planquez-vous, et comme tout le long de cette BD, elle apprend des choses d'adulte cachées derrière un rideau. Elle finit cachée derrière un rideau. Et je vous dirai pas la suite, mais voilà.
Tu l'as un peu spoilé au départ.
Voilà. En fait, tout...
On imagine que c'est une bonne cachette.
Voilà.
Si tu veux être découvert
toute assez la... vite. Toute la bande dessinée, elle apprend des choses cachées derrière un rideau. Donc, elle va apprendre l'existence de sa nouvelle maman cachée derrière le rideau. Elle va apprendre, voilà, des choses comme ça au fur et à mesure et des choses de grand. Et voilà, et on est dans toute l'histoire juive. Et donc là, ben, pour rappel, donc Vichy... les collabos voilà, de Vichy qui, du coup, lors de la rafle, ont rappelé quand même 76 000 juifs français, alors qu'au début, ils ne voulaient pas le faire. Et puis, sur ces 76 000, il y avait quand même 11 000 enfants, et il n'y en a que 2005 qui sont revenus. Voilà.
Alors, Sarah Del Giudice disait à propos de ce livre qu'elle s'était inspirée du journal qu'elle évoquait même, le journal d'Anne Frank. Qu'elle s'est inspirée de Barbara Yellen, sa BD Irmina, en particulier pour les décors qui sont ancrés dans la même période historique, mais aussi de Sampé et du petit Nicolas.
Et de son histoire personnelle, puisqu'elle a des grands-parents.
Et de son histoire personnelle, voilà. Et voilà. Pour elle, les œuvres de Cézanne et de Toulouse-Lautrec sont des modèles impérissables, je suis bien d'accord avec elle. Et parmi les textes, voilà, d'autres textes qu'on ne connaît pas.
Et c'est un récit pour les enfants.
Oui, c'est la question que je me posais aussi.
Alors,
D'après les dessins, on dirait, mais je ne sais pas, Marlène.
Ça n'a pas l'air quand même.
Honnêtement, non. Moi, je ne le mets pas encore pour les enfants. Ou alors les ados, je veux bien, mais c'est quand même...
D'accord. Très dur.
C'est dur, hein.
Oui, le sujet, oui.
Les même ados si de 6e qui se posent des questions.
Ouais,
voilà, Pauline, peut-être pour
bim,
des
collégiens. Tiens, lis ça, là.
C'est ça. Après, mais quand même, voilà, le glossaire historique.
Oui, c'est documenté.
Elle met à la fin, voilà, c'est documenté. Il y a le glossaire, il y a le contexte historique pardon, qui est rappelé, etc.
Ah oui, mais c'est quand même écrit pour les enfants, je pense, alors. Ouais. En tout cas, édité pour les enfants.
Même quand tu regardes les dessins, je trouve que ça... On dirait que ça s'adresse quand même à des lecteurs assez jeunes. Peut-être pas des tout-petits.
Ouais.
Hein,
mais...
Allez, on enchaîne. Il est 20h07, 1h07, cette émission. On est complètement dingo. On
coucou
va le
CSA, on dépasse un peu. Bisous, bisous.
Non, ils sont contents, le CSA.
Bah, c'est pour ça que je leur dis bisous, bisous.
On parle d'antisémitisme, on va aller du côté de l'apartheid.
Ouais. Hein,
comme ça, on fait le lien. Avec Claire Josie Jungle de Mogorozi,
oui.
Mochumi, qui a une histoire formidable, cet homme que je pourrais raconter après, vu que tu ne l'as pas travaillé.
Oui,
et que c'est mon rôle de le travailler.
Et que je vais encore avec un livre que j'ai à moitié lu. Et en plus que le tome 2. Donc,
et comme ça, tu ne spoileras pas, c'est bien.
Bon, à mon corps défendant, nous n'avons pas reçu le tome 1, donc je n'étais pas en mesure de le lire. OVNI, non, mais...
Ah voilà, non, oui. L'OVNI, c'est moi.
Oui, mais voilà bien un objet étrange, oui.
Je t'expliquerai pourquoi.
Voilà. Bon, moi, je me suis jetée dans cette BD comme ça, sans trop savoir. Je n'ai pas voulu savoir. Les premières pages, je me suis dit, bon, ça manque un peu quand même de ne pas avoir lu le tome 1. Et j'ai trouvé déjà dommage que d'un point de vue éditorial, il n'y ait pas un petit rappel, quand même, un petit résumé, enfin, pour qu'on sache un peu où est-ce qu'on est.
Pour les gens qui achètent direct le tome 2.
Voilà.
Parce que le tome 1 n'est plus
dispo. Ou ne se le font pas livrer. Voilà. Donc, ça m'a un peu manqué. Mais bref, je me suis dit, bon, allez, accroche-toi, t'es intelligente, tu vas attraper des détails de ci, de là, tu vas te comprendre de son passé. Non. Non, mais bon, c'est pas grave. Hein. On comprend à peu près où il en est, cet homme. Donc, il s'appelle Mogorozi Mochumi. On comprend qu'il est né dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Au fur et à mesure, on arrive à grappiller une ou deux dates. Donc, il semblerait que ça se passe fin des années 80, début des années 90. Voilà. Et donc, c'est un homme qui vit, qui est un peu entre deux vies. Il a une femme, il a des enfants, il ne vit pas avec elle. Il est contraint de travailler dans une autre ville. Et il s'improvise un peu dessinateur, quoi. Enfin, il arrive dans une rédaction, il fait des dessins, quoi. Puis finalement, on lui dit, oh, bah, tiens, c'est pas trop mal ce que tu fais. Donc, on va lui donner davantage de travail. Et donc, il crée ce personnage-là de Sloopy,
qui apparemment est très connu en Afrique du Sud. Et c'est aussi pour ça que cet auteur, Mochumi, est connu et qu'on, enfin, qu'on, du coup, que ce livre existe. Parce que ce personnage de Sloopy, c'est un peu un espèce de, d'avatar rigolo. Mais qui va raconter en fait les misères du peuple noir sous l'apartheid. Voilà, c'est un peu voilà, il va essayer de transformer ça d'une façon rigolote et ludique, alors qu'en fait ce qu'il raconte c'est absolument affreux, quoi. Et donc ça a eu du succès parce que les gens ont rigolé de leur misère en fait. Donc c'est voilà, on est du coup pas dans le pathétique. Cela dit, en lisant la BD, je me suis dit bon, alors on n'a pas trop le contexte, on a un peu du mal à saisir où on est, faut s'accrocher un peu. Les dessins sont pas ouf. Par exemple, les femmes, elles ont des épaules de camionneurs. Enfin bon, les personnages, parfois, pour un même personnage avec un visage, on a du mal à reconnaître le même personnage parce que les visages sont pas bien dessinés. Donc je me disais, oui, c'est curieux. Alors, je suis allée voir l'éditeur, Cambourakis. Bon. Et en fait, en allant quand même un petit peu fouiller avant la radio, parce que j'ai quand même un peu regardé, j'ai été touchée finalement par ce livre, parce que l'auteur, bon, il a une vie très compliquée, il a vraiment vécu dans des quartiers très violents. Là, j'en suis à un passage où il est en train de se faire poignarder par les gens qui l'hébergent. Parce que le mec un peu bourré, en fait, croit qu'il se passe un truc avec sa femme, alors qu'absolument pas. Il se prend des coups de couteau et il finit à l'hôpital et puis le mec vient le voir, quoi. Bon, voyez, donc c'est un univers très quand même violent. Et bon, ce pauvre homme, bon, je crois qu'il est encore en vie. Hein. Je sais pas si tu me confirmes ça,
Judo. Oui, je crois qu'il est encore en vie.
Ouais. Mais il a le sida. Et malheureusement pour lui, cette maladie-là, en plus, chez lui, touche particulièrement la vue. Et donc, il perd la vue progressivement. Et les gens autour de lui, avec qui il a travaillé dans les diverses rédactions, lui disent « il faut que tu racontes ta vie en BD ». Et donc, j'ai regardé ce qu'il faisait avant en dessin. Effectivement, c'était quand même de meilleure qualité.
Ça explique.
Okay. Voilà. Mm-hmm. Et je me suis dit « ah, mais c'est le dessin d'un homme qui perd sa vue, quoi, hein, qui est en train de tout mettre quelque part en racontant sa vie ». Donc j'ai trouvé ça, en fait, touchant, finalement, que ce soit maladroit, ce dessin. Voilà, donc c'est... ouais, c'est un produit intéressant, je veux dire, pour qui ça s'intéresse à l'Afrique du Sud, qui... Voilà, cette période qui est absolument affreuse. C'est pas forcément facile à lire non plus parce que c'est tout le temps ponctué de de leur langage. Donc il y a de l'africaneur, mais il y a aussi tout ce langage moitié mélangé avec des langues locales, et cet africaneur et l'anglais. Donc en fait, souvent, très souvent, il y a des notes de bas de page qui traduisent tout le temps ce qui se raconte. Donc il faut vraiment faire sans arrêt l'aller-retour. C'est pas forcément gênant, mais voilà, ça ralentit.
On a pas l'habitude en plus en BD, c'est vrai que c'est exactement plutôt rare.
Ouais, ouais, voilà. Voilà, mais franchement, pas inintéressant. C'est original. Hein.
Ce qui est intéressant, c'est par rapport à aux personnes qui l'ont poussé alors qu'il était zéro positif, aveugle, en disant mais il faut que tu racontes ta vie. En fait, c'était surtout dans les années 70 où c'est devenu un chroniqueur hors pair dans des journaux, notamment un journal qui s'appelle The Friends, et c'était un chroniqueur hors pair de la vie des Township.
C'est ça.
En 80, il s'est impliqué dans la lutte contre l'apartheid. Il a fait 2 semaines d'emprisonnement, donc on imagine que bon, il s'est impliqué mais sans plus, parce que il y en a qui ont fait bien plus que ça. Mais voilà, à mon avis, c'est surtout cette époque de 70 où il était connu pour chroniquer cette vie compliquée. Et en 94, il continuait à être dessinateur. Il n'arrivait plus à se faire publier. Voilà. Et c'est là qu'il a en plus appris qu'il était zéro positif. Sa vue est touchée. Ses capacités créatives gravement amoindries. Et donc, c'est qu'au début des années 2000 qu'un dessinateur ami de longue date qui s'appelle Andy Mason l'incite à entreprendre son autobiographie en bande dessinée. Et donc, du coup, ce projet est soutenu par de nombreux artistes sud-africains qui ont été touchés par son itinéraire finalement représentatif de l'histoire tourmentée du pays et qui le poussent à écrire sa vie. Donc, il y a tout un courant de dessinateurs sud-africains qui le poussent en disant « Ben voilà, en 70, tu as créé quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as continué en 80 en luttant contre l'apartheid. Et maintenant, personne ne parle de toi. Personne ne te soutient. Nous, on est là. Il faut que tu racontes ta vie.
Ouais. » Oui, mais effectivement, puis il a des choses à raconter. Bon, par exemple, bon, peut-être les gens qui sont spécialistes de l'aparté, ils le savent, mais moi, je l'ai appris en lisant ça. Donc, les gens avaient des espèces de passeports, les noirs hein, d'Afrique du Sud, qui se divisaient en sections X1A. Donc, selon les lois de l'apartheid, les noirs nés dans les villes étaient classifiés sous le régime de cette section X1A et avaient le droit de vivre et de travailler en ville. Ceux nés dans les fermes et dans les zones rurales ou les bantoustans dépendaient de la section X1B ou C et devaient demander des permis pour aller vivre et travailler en ville. Voilà. Et en fait, là, du coup, il explique en quoi ça leur complique, mais horriblement la vie. Ils sont, ils passent des espèces de checkpoints. Enfin, ça, voilà. Moi, ça m'a fait penser à la Palestine, hein, tout ce qu'ils racontent là sur les laissez-passer. Enfin, bon. Voilà, on le sait, l'histoire affreuse de l'Afrique du Sud, mais.
Mais elle explique. Ouais.
C'est, ouais. Oui, c'est franchement, c'est un, je crois que c'est quand même quelque chose à lire. Et puis, il a l'air passionné de boxe aussi, parce que genre, l'histoire ça, de la boxe revient assez souvent dans la BD.
Ok, merci, maison d'édition.
Kambourakis.
Allez, c'est parti, on a fini. On a fini ou il nous manque un livre? Oh, il nous manque un livre. Ah, finissons cette émission douceur.
Des oiseaux.
De féerie, des écureuils. Deux sœurs qui apprennent à survivre au cœur de la forêt dans un monde privé de ressources. Oui. Pour mieux le réinventer, nous ne savons pas, mais Valérie va nous le dire.
Exactement.
Dans la forêt de Loming.
Qui a été adapté en fait d'un roman très connu de Jean Aiglan.
Aiglan, Anglade.
Et ben, Aiglan. Justement, dans la forêt.
Ah, Jean Aiglan.
Non, mais rien à voir. C'est avec H-E-G-L-A-N-D. Ouais. Mais. Moi, en fait, c'est un ami donc qui est forestier qui m'a dit tiens, mais prends-la. Donc je me suis dit, oh, ça va être chouette.
Belle histoire de forêt.
Voilà, je vais apprendre comment les oiseaux, les animaux vivent en communauté, tous nos amis, les
et
champignons
non,
qui
en
poussent.
Fait,
et non,
il est collapsologue. On va apprendre
ben,
à
je viens
vivre
de le découvrir.
Sans essence, sans
et
électricité.
Si demain il n'y avait plus d'essence et il n'y avait plus d'électricité, si le monde s'arrêtait, mais que comme toi, tu vis avec ta famille dans la forêt, tu ne le sais pas et tu le découvres un peu au hasard. Quand papa et maman ne sont plus là. Tu es la seule avec ta sœur, tu as 17 ans, elle en a 18. C'est l'histoire donc de Nell et Eva, et Eve, pardon, c'est ça, Ludo, qui se retrouvent donc toutes seules dans leur maison familiale d'enfance.
C'est Eva.
Eva, voilà, et se retrouvent donc à l'aube de, ce, de cette peut-être apocalypse ou peut-être fin du monde, on ne sait pas, mais où tous les gens ont fui parce qu'il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus de moutarde, il n'y avait plus de pécan.
Et d'où te vient cette voix de présentatrice météo?
Je ne sais pas, c'est Ludovic qui a commencé comme ça, donc je continue.
C'est vrai que j'ai commencé comme ça. Comme ça.
Et je peux être sans fin quand je prends cette voix.
C'est non, la Nine Cansi blonde.
Ah, c'est la Nine Cansi.
Oui, mais elle n'est qu'à 4. Tu parles doucement.
Elle n'est qu'à 4.
Ouais, la bière vous adoucit.
Je suis un peu déçue.
Elle nous rend gentille. Pas du tout comme ce livre que tu crois être un gentil livre sur les écureuils et les oiseaux. Non, c'est terrible parce que en fait, encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ce que j'aime dans les livres, en fait. C'est quand tu t'attends pas à quelque chose et que quelque chose se produit encore mieux que ce que tu t'attends, mais qui est très différent. C'est une BD absolument fabuleuse. Donc c'est aussi une sorte de saga familiale. C'est un roman, un parcours initiatique de ces deux jeunes sœurs qui se retrouvent seules et qui doivent survivre dans un monde quand même patriarcal par moment, puisqu'il y en a une qui rêve d'être danseuse, et sa mère fait tout pour qu'elle soit pas danseuse parce qu'il faut pas qu'elle reproduise les mêmes choses. Un père qui fait tout pour que sa famille puisse vivre justement dans la forêt et ce truc horrible qui arrive dans cette ville où il y a plus d'essence, où il y a plus rien, où les gens s'entretuent, où il y a des armes, où on se fait plus confiance, où tu perds tous tes repères, qui est tes amis, qui sont tes ennemis. Cette personne de passage qui a juste besoin de s'arrêter pour reprendre un peu des forces, va-t-il être une bonne ou une mauvaise personne? Enfin, c'est voilà. Puis il va y avoir l'ours, il va y avoir. Enfin, c'est juste impressionnant en fait le suspense qu'il peut y avoir dans cette BD qui est très courte. Par contre, Ludo, tu vas beaucoup apprécier. Il n'y a pas beaucoup d'écriture. Ça peut être lu très vite, mais c'est moi j'ai trouvé ça hyper angoissant en fait, hyper angoissant parce qu'il y a ce côté nature, il y a ce côté isolement, c'est ça. Et en même temps, il y a tellement d'écho qui est fait. Je l'ai regardé, je l'ai commencé
quand il y a eu les premières queues aux stations essence avenue Foch à Mende. Et en fait, donc moi je suis à vélo, donc je m'en fous un petit peu, mais je passe
et je vois tout ce que tu viens de dire.
Oui, mais justement, et je vois tous ces gens qui
font
la queue.
Elle lit à vélo.
Non, je ne lisais pas. Je tentais de survivre parce qu'il n'y a pas de frein, Ludovic, à mon vélo, je te le rappelle. Et donc tu vois cette queue de gens qui seraient prêts à se doubler pour être sûr d'avoir un litre d'essence, et tu rentres et tu lis ça, et tu lis l'histoire de... Tu penses faut lire un livre avec des écureuils et des oiseaux, hein, peut-être un sanglier éventuellement. Et là, tu vois qu'en fait, il y a ce déclin arrive à cause d'une pénurie d'essence et de moutarde. Et là, ça faisait un parallèle avec ce qui se passait avenue Foch là. Waouh.
Et si c'était écrit.
Oui, mais c'est ça pourrait. Et en même temps, tu te dis bon, mais c'est bon, elles s'en sortent. Enfin, elles savent faire des conserves. Et la nature et.
Et elles accouchent toutes seules dans la forêt.
Absolument, absolument. Et elle accouche.
Oui.
Et
sa sœur l'aide. Ouais.
Ouais. Ouais. Et c'est assez magnifique.
Tu l'as lu,
Claire ? Non, mais alors moi j'ai assisté à une lecture dessin à Frontignan, au festival du roman noir de Frontignan. Mmh. Et on a rencontré l'auteur qui faisait, en même temps que les bibliothécaires lisaient des extraits. Qui était très bien sélectionné. L'auteur
du roman ou de la bande dessinée ?
La bande dessinée.
D'accord.
Faisait en direct des dessins.
Loming.
Loming. Et l'auteur est américaine, d'ailleurs.
Voilà, que Loming est un scénariste et dessinateur de bande dessinée français.
Oui, et ils ont eu des contacts. Elle a, en quelque sorte, approuvé la BD.
Voilà, donc lui, il est autodidacte, il a aiguisé son trait dans le dessin humoristique avant de se tourner vers la BD en 2006. Il a publié dans différents fanzines, et ce livre, il est date de 2020, il n'a pas eu de prix. Je vais dire, il a eu un prix. Et il vit à Rennes.
Il a mon prix, si.
Poupi le connaît.
Elle s'est très bien vendue, la BD.
Les dessins sont beaux.
Ah, mais les dessins sont magnifiques. Oh,
alors, il faut préciser, c'est du noir et blanc, du marron et blanc.
Ouais, du marron et blanc. Non, c'est pas du noir.
C'est pas noir.
Du sépia.
Et quand tu regardes les dessins comme ça, ce serait presque féerique.
Oui, mais c'est fourbe.
Oui, c'est fourbe. Il y a une espèce de flou, là. Mais à côté,
tu penses que tu vas voir, à tout moment, un écureuil peut surgir.
Tout à fait, je comprends que tu te sois fait piéger.
Voilà.
Je suis tombée sur une page érotique.
Ah, bah alors, c'est la seule.
J'ai vu la page érotique.
J'ai vu ta réaction, Poppy, quand tu es tombée dessus.
N'attendais pas,
oui,
du tout, parce que je croyais que je regardais l'histoire de deux sœurs.
Tu regardais bien l'histoire.
D'accord, ok.
Ce sont bien deux sœurs, oui.
D'accord.
Ça a mis un petit blanc. Non, mais ne fiez pas cette dernière 30 secondes, c'était la minute érotique de Un livre sur le zinc.
C'est ça.
Ah, mais on pourrait faire une émission, non, on n'a jamais fait ça.
Mais on attendait que tu nous proposes des lectures érotiques. Ça sera pour octobre.
On la diffuse à 22h en direct.
Non, on est en octobre. C'est pour l'émission de novembre.
Ouais.
Oui.
Allez, l'émission de novembre en direct.
On va être très très
septembre.
Ça va être.
Oui, mais c'est l'émission d'octobre, septembre. On a déjà fait une émission. On est fin septembre. Donc Claire, tu.
Non, parce que moi, je vais demander à ma collègue. Ouais. Ça, je pourrais toujours dire.
On lui demande des BD enfants. T'as vu ce qu'elle nous donne ? Si tu lui demandes des BD érotiques, on est mort. Là, on est YouPorn.
Je vous rappelle que la dernière fois, on a parlé de BD du monde. J'ai eu vanille fraise ou vanille chocolat.
Ah oui, exact.
Donc, je suis pas encore tout à fait remise.
High level.
Allez, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à écouter cette émission en diffusion pour attraper les titres et pouvoir acheter ces livres, les commander. Il faut lire.
Et pour la, si vous voulez l'émission érotique, tapez 1. Et sinon, l'émission littérature de jeunesse, tapez 2.
Tapez 2, voilà.
Sur 36-15.
Vous avez le choix. Il vous reste 4 jours pour voter. Dans 4 jours, on choisit. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission à thème variable. On verra bien.
Oui, c'est ça.
Et comme dirait l'autre,
au revoir.
Il
la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y en a plein les commissariats, plein les directionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.